les jardinières.
Par endroits, le thermomètre chatouille le zéro. La nuit, pas de doute, on s'approche de l'hiver. Allez, on reste au chaud une heure encore pour les jardinières. Ensuite, tous dehors pour s'occuper de ces plantes. On parle jardinage jusqu'à 8 heures. Bonjour Raphaël.
On parle pas de chatouillage, on est d'accord. Bonjour Mylène, bonjour tout le monde.
Il a affronté la nuit et les températures fraîches pour nous rejoindre. C'est Olivier Ribaud. Bonjour Olivier.
Bonjour à vous.
Olivier Ribaud, vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Port-en-Truy. Merci d'être avec nous.
Et merci surtout à nos auditeurs d'avoir choisi les jardinières pour débuter votre week-end. Soyez toutes et tous les bienvenus.
7h, 8h, les jardinières.
Les températures se rafraîchissent de jour en
mais
jour.
Mais non.
Mais oui.
Mais non.
Olivier, est-ce que le moment est déjà venu de penser à rentrer ou protéger ses plantes pour l'hiver ?
Alors, il y en a certaines qui sont, c'est vrai qu'il faudrait commencer de les protéger et puis de peut-être les tailler, de les rentrer. Je prendrai déjà après exemple sur la photo que vous avez envoyée, mais on va commencer de faire attention à toutes ces plantes qui sont vraiment très délicates, qui ont un feuillage sensible, frêle, comme du géranium, du fuchsia. Ce qu'on va, nous, catégoriser dans les plantes molles, ça veut dire que c'est une plante qui est vivace dans son pays d'origine, mais qu'ici, elle gèle très, très facilement. On a aussi les datura qui font ces belles grandes clochettes blanches. Ça, c'est des plantes qui peuvent être en feuillage très sensibles. Donc, les premières gelées, ils ne vont pas aimer pour les laisser dehors.
Olivier, on voit que l'être humain se rhabille très rapidement dès qu'il y a des premières fraîcheurs. On met un bonnet et tout. Est-ce qu'avec les plantes, on doit faire un peu pareil ?
Alors, vous prenez exemple sur les personnes. C'est vrai que les plantes, c'est aussi un peu toujours comparable à ça. C'est que il faut aussi les habituer un peu au froid avant de trop vite les mettre au chaud. Si vous prenez exemple d'un olivier ou d'un palmier, de toutes ces plantes méditerranéennes, si vous les rentrez trop vite, la plante, elle aura pas le temps de se durcir. Le tissu végétal, la feuille n'aura pas le temps de devenir un peu dur, un peu outé comme il faut. Et puis après, ces plantes vont être frêles à l'intérieur et l'épiderme de la feuille sera sensible. Donc, on aura des parasites qui pourront les piquer facilement. Donc, n'hésitez pas à les laisser quand même venir un peu durcis par le froid, par ces soirées, ces nuits un peu plus fraîches. On peut un peu les abriter sous un couvert ou comme ça, mais pas les mettre au chaud trop vite parce qu'après, elles vont repousser et puis elles ne vont pas être assez costaudes pour l'hiver.
Vous avez compris, Mylène, on ne met pas la doudoune trop rapidement.
Ça marche.
Merci beaucoup, Olivier. Vous êtes là ce matin pour répondre aux questions de nos auditeurs. On vous rappelle comment les poser, ces questions. Vous pouvez le faire par téléphone au 0900 170 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez choisir l'option SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question. Vous envoyez ce message au 939. Et la dernière possibilité, c'est par le formulaire que vous retrouvez sur notre site internet sous l'onglet émission, questions aux jardinières. Et là, vous pouvez même y joindre une photo.
Après une pause musicale, nous allons découvrir et apprendre ce qu'est la multiplication végétative. Alors même si le terme peut paraître un peu barbare et faire peur, grâce aux explications d'Olivier, vous verrez que tout est possible.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, on s'intéresse à la multiplication végétative. Pour avoir des plantes, on peut les semer. Et pour les multiplier, on peut les greffer. D'ailleurs, Olivier nous en avait déjà parlé de ce sujet. Et si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver en podcast sur la page des jardinières. Il existe également la multiplication végétative. Alors Olivier, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer, dans les grandes lignes, la différence entre les semis, les greffes et la multiplication végétative?
Alors, ces différences, c'est assez simple, je dirais, mais c'est vrai que quand on va chercher ces plantes dans une jardinerie ou dans un garden centre ou chez un producteur, cette personne qui aura produit ces plantes aura dû les multiplier. Donc la greffe, on l'avait évoqué, donc on va prendre deux fragments, on va les coller ensemble. Ça se fait en période de printemps, très tôt. Après cet été, on a parlé des graines, comment récupérer des graines. Donc c'est toutes les plantes qui vont faire des fleurs et après vont faire une graine. Et puis il y a quand même une grande partie de plantes qui font peut-être des fleurs mais qui ne sont pas stériles, donc qui ne vont pas faire de graines et qui seront plus difficiles. Donc on peut les multiplier par des morceaux de végétaux. Donc on va prendre des morceaux de cette plante pour les repiquer, pour redonner une nouvelle plante. Et c'est une pratique qui est simple et puis qui n'est vraiment pas coûteuse parce qu'on peut refaire des plantes facilement soi-même.
Simple, pas coûteuse. Alors du coup, quels sont les autres avantages de faire de la multiplication végétative, Olivier ?
Eh bien, c'est qu'on arrive à garder la plante de mère, donc la plante de base. On va produire une plante pendant une saison, on va garder sa plante. Et puis à cette période, c'est aussi un peu pour ça que c'est bien d'en parler maintenant, c'est que c'est une plante qu'on peut prendre des fragments, des morceaux, qu'on va couper et qu'on va repiquer dans la terre et puis qu'on va pouvoir lui faire faire des racines pour avoir après des plantes nouvelles pour son jardin. Et c'est quelque chose qu'on peut faire depuis une plante, on peut en faire vraiment beaucoup, donc c'est ce qui donne l'aspect économique et puis qu'on peut multiplier ces plantes.
Alors on a parlé des avantages, mais Olivier, est-ce qu'il y a des inconvénients à pratiquer la multiplication végétative ?
Alors les inconvénients, quand on fait ce genre de choses en tant que professionnel, on les connaît parce que c'est quand même une opération qui est un tout petit peu délicate. On va aller choisir ses branches, donc on va toujours utiliser des branches de l'année. Si vous voulez, on peut pas prendre un morceau de bois qui date de 4, 5 ou 6 ans de d'âge et puis le repiquer, il va pas repousser. Mais on va prendre un morceau de la pousse de l'année, on va enlever la partie haute, la partie basse et on va vraiment garder la partie du milieu qu'on va repiquer en terre. Et puis c'est ça qui fera les nouvelles racines. Donc au niveau des avantages, c'est il y en a pas beaucoup, mais ça peut on peut en avoir qui sèchent, on peut en avoir. Mais si c'est tellement facile à repiquer, on peut en faire beaucoup et on est sûr d'assurer sa production.
Olivier, est-ce que la multiplication végétative peut se faire avec toutes les plantes ou est-ce qu'il y a des exceptions ?
Alors il y a des exceptions et il y a des plantes qui sont plus faciles, quand on l'a vu cet été par les graines, on peut les multiplier plus facilement en les semant parce qu'ils vont faire beaucoup de graines. Si on prend exemple des conifères, on le verra peut-être encore après, un sapin qui fait une pive, c'est plus simple. Donc on peut faire avec de tout, mais seulement les plantes qui sont de saison, d'été, qui poussent bien. Je prendrai l'exemple d'un géranium qui est une plante horticole qui est quand même très connue. Elle fait des fleurs, mais elle fait très peu de graines. Il y a des variétés qui font des graines, mais la grande partie des géraniums ne font pas de graines. Donc en horticulture, c'est ce qu'on fait. On va multiplier ces géraniums par bouture. Donc on va casser des fragments, couper des morceaux de cette plante et on va les repiquer dans un terreau spécial. Je crois qu'on peut en parler encore un peu après. Mais on va les repiquer et c'est comme ça que ça fera de la nouvelle racine et ça fera une nouvelle plante.
Merci Olivier, on va se retrouver dans quelques minutes. Et justement, vous nous donnerez quelques exemples concrets de plantes idéales pour la multiplication végétative et puis aussi comment pratiquer.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste à Port-en-Truy, on s'intéresse à la multiplication végétative ou comment une seule plante peut ainsi donner naissance à de nouvelles plantes à partir d'un fragment de tige, de feuille ou de racine. Olivier, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de plantes ou arbustes avec lesquels on peut utiliser cette technique ? Tout à l'heure, vous nous avez parlé du géranium. Il y en a d'autres ?
Alors oui, bien sûr, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. On a parlé du géranium, donc dans des plantes horticoles, le géranium, on peut prendre le fuchsia, on peut prendre la buveuse de Guinée, ça c'est des plantes qui se multiplient très facilement par bouture. Je vais peut-être plus m'étaler sur les plantes qu'on peut retrouver facilement en pépinière et autour de sa maison. Donc par exemple du forsythia, par exemple du cornouiller ou des deutzia, donc toute cette série d'arbustes qui font des fleurs pendant la saison, même un noisetier par exemple, aussi des plantes à feuillage, c'est des plantes qui poussent facilement, qu'on commence de tailler à cette période. Alors avec ces pousses de taille qu'on pourrait récupérer, eh bien on peut refaire des nouvelles plantes. Comme je l'expliquais avant, on prend un morceau de cette pousse et puis on va enlever quelques feuilles en bas parce qu'elles sont encore accrochées après la baguette et on va les repiquer dans un terrain, dans un jardin. Et puis après, c'est là-dessus que les racines vont revenir pour l'année prochaine.
Est-ce que le déroulement est toujours identique selon la plante ou selon certaines plantes, il y a peut-être des méthodes un peu différentes ?
Alors, il y a des méthodes différentes. Je reprends un peu avant, vous avez parlé des boutures de feuilles ou des fragments de feuilles. Alors ça, c'est un peu plus pointu, un peu plus technique. On va prendre une feuille, pour ceux qui connaissent la violette du Cap, c'est une petite fleur d'intérieur. Alors ça, on les multiplie en serre avec qu'une seule feuille et ça redonne des plantes. Mais sinon, à la base, une bouture d'arbuste, si je prends cet exemple, c'est à peu près pour tous les arbustes la même chose. On va prendre cette tige, on va la remettre en terre, en sachant toujours que les racines vont revenir, donc on va les remettre en terre à cette période, parce que c'est l'automne, et ces racines vont sortir durant l'hiver depuis sur la tige, et vont toujours sortir à la base de où la feuille est attachée sur la tige, sur le tronc. Donc les racines, c'est pour ça qu'il faut en mettre 6 à 8 cm, voire 10 cm de cette branche dans terre, pour qu'on ait au moins deux étages de feuilles qui se retrouvent dans l'humidité pour pouvoir faire des racines.
Vous avez parlé tout à l'heure des conifères, des arbustes. Si on prend par exemple le sapin, hein, on imagine que vous avez coupé votre sapin pour Noël, on peut après prendre un petit bout de branche et puis replanter pour avoir d'autres sapins.
Alors voilà, justement, ça c'est l'exemple des conifères qui sont une partie des plantes qu'on ne fait pas de bouture pour un sapin de Noël ou pour un sapin bleu, par exemple. C'est des plantes qui seront multipliées par graines, par semis, parce qu'ils feront beaucoup de pives et beaucoup de graines. Par contre, on peut trouver quelques conifères, comme je vais reprendre l'exemple du thuya que tout le monde connaît. À la base, on peut les semer facilement, mais seulement quand on sème un thuya en pépinière, on le sait, ces plantes vont refaire des graines. Et avec le temps, il y a des plantes comme le thuya qui a été sélectionné dans de grandes pépinières. Et puis, on aura pris des thuyas qui ne font plus de graines pour plus avoir chez soi des petites graines qui se remettent partout pour faire des jeûnes sous la haie. Donc, c'est nous, en pépinière, on les multiplie justement par bouture pour assurer qu'ils ne viennent pas de graines dessus.
Merci beaucoup Olivier. Toutes ces explications seront à retrouver en cours de matinée sur la page des jardinières sur notre site internet. Et on vous donnera également encore dans quelques instants quelques conseils si vous avez envie de débuter avec de la multiplication végétative. Nous, on se retrouve dans quelques minutes pour répondre à vos questions qu'on attend avec impatience.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Et jusqu'à 8h, vous avez la possibilité de poser vos questions. Et c'est notre invité Olivier Ribaud, pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Port-en-Truy, qui vous répond.
Et arrêtez de faire les timides, on attend vos téléphones pour passer en direct avec notre jardinier pour pouvoir poser votre question. Le numéro, vous le connaissez déjà, on vous le rappelle, 0901 70 20 20, pour 36 centimes la minute. Si vous êtes plus timide, vous pouvez choisir l'option SMS, vous tapez jardinier. Un espace suivi de votre question, vous nous envoyez ce message au 939. Ou encore la dernière possibilité, c'est par le formulaire. Là, vous pouvez même y joindre une photo. Ça se passe sur notre site sous l'onglet émission, questions aux jardinières. Et soyez le plus précis possible pour aider notre professionnel.
Olivier, en première partie d'émission, nous avons parlé de la multiplication végétative. Alors, on va juste revenir sur ce sujet pour une question. Pour une personne qui a envie de tester cette technique de multiplication végétative, par quoi lui conseille vous de débuter une plante avec laquelle ça fonctionne?
Alors, une plante qui fonctionne, je dirais, le plus simple, c'est quand même encore les arbustes à fleurs. Donc, on a parlé de ce fameux forsythia ou du cornouiller. Ça fonctionne aussi très bien avec du laurier, par exemple, qu'on fait des haies. Puis, c'est des plantes qu'on utilise assez facilement. Je vais encore juste préciser que pour que ça fonctionne à la base, il faut utiliser une plante qui est saine. Ça veut dire une plante qui est en bonne santé, en bonne croissance, qu'on ait des belles pousses à couper. Il faut utiliser du matériel pour couper ces plantes qui coupent proprement, donc un sécateur qui coupe vraiment très très bien, ou alors utiliser un couteau qui coupe très très bien, pour que les coupes, quand vous coupez une bouture, la coupe doit être franche, doit être nette, ça ne doit pas avoir été haché ou écrasé, parce que sinon on va déjà commencer par une plante qui va, quand elle sera mise en terre avec l'humidité, elle va pourrir ou elle va commencer de pourrir par le pied, puis après elle ne pourra pas faire ses racines. Donc c'est quand même des choses qu'il faut faire un peu observer, peut-être un peu chercher, mais pour faire une bouture il faut partir avec du matériel qui va bien, une plante qui est saine, et après une fois qu'on a mis ça en terre, qu'on l'a repiqué, on va toujours couvrir pour garder une humidité très constante. Donc il faut vraiment que la plante, le feuillage ne sèche pas tout de suite, il faut garder de l'humidité. Donc on va mettre un film plastique à trous pour que l'humidité du sol remonte, retombe sur le terrain, puis que ça reste toujours humide. Et on surveille ça pour que ça puisse faire des racines le plus rapidement possible.
Et niveau matériel, Olivier, est-ce qu'il faut quelque chose en particulier ou une attention de tous les instants ?
Alors, au niveau matériel, bon, ben, le matériel pour couper la bouture. Après, il faut l'endroit pour la repiquer. Donc, soit on fait ça directement pour des arbustes en pleine terre, ou si on multiplie des plantes, comme des géraniums, on parlait avant, ou d'autres, on va les repiquer peut-être directement dans des petits pots, dans des petites caissettes, qu'on va les aligner l'une à côté de l'autre. Alors là, c'est du petit matériel. On va mettre ça dans une serre. On va justement garder cette humidité et un peu de chaleur pour les faire prendre racine le plus vite possible.
Merci beaucoup Olivier pour toutes ces précisions sur les multiplications végétales. Mylène, est-ce qu'on passerait pas aux questions que l'on a reçues cette semaine?
Oui, alors on a reçu de Jocelyne Desbois une question via notre formulaire. Elle nous dit « Bonjour, j'ai un énorme fuchsia ». Alors on se demandait avec Raphaël, est-ce qu'on dit fuchsia, fuchsia, fuchsia?
Fuchsia.
Fuchsia, voilà. Donc ce fuchsia qui a déjà bien des années, elle va l'hiverner dans l'écurie à l'abri du gel. Alors est-ce qu'il faut le tailler avant? Merci de votre réponse et bonne salutation. Elle nous a envoyé une photo. Alors le fuchsia, il y a deux plantes. En haut, c'est un géranium,
voilà.
Si je ne me trompe pas.
Tout à fait, c'est bien.
Et en bas, c'est le fuchsia, magnifique fuchsia avec ses petites fleurs.
Tout à fait. Alors nous, on a le visuel pour les gens qui ne voient pas, mais c'est assez simple. C'est deux plantes qui sont très connues et qui sont vraiment aussi deux plantes qu'on peut hiverner à cette période maintenant assez facilement. Et aussi bien pour le géranium que pour le fuchsia, quand on le rentre, en effet, on va le tailler, on va lui supprimer en tout cas un tiers de son volume de feuilles. Donc automatiquement, on va éliminer s'il y a des petits insectes, des mouches blanches ou d'autres parasites qui sont sur ce feuillage, donc ils vont disparaître. Donc on va les tailler, on va les jeter. Et puis après, on va nettoyer la plante qu'on veut garder pour l'hiver. On va enlever toutes les fleurs. On ne va pas garder de fleurs parce qu'on n'a pas besoin de fleurs pour l'hivernage. On va enlever toutes les feuilles sèches, tous les fragments de tiges qui peuvent être secs. Donc on va vraiment le nettoyer proprement pour rentrer une plante au maximum propre et saine. Et puis cette personne, c'est le cas typique. Pour rejoindre notre thème du jour, elle peut chercher dans ses déchets de ce qu'elle aura taillé toutes des parties de la plante, donc les têtes, les extrémités, et puis elle va couper des pousses de fuchsia qui font à peu près 8 cm de long sur sa pour en faire une bouture. Et sur cette bouture, s'il y a de nouveau une fleur, on va l'enlever parce qu'on va toujours repiquer une bouture sans fleur, sans bouton. Et puis après, elle va piquer ça dans un substrat terreau léger avec un peu de sable. Et puis elle va repiquer dans une petite cagette toute une série de ces petites plantes. Et puis en un mois, ces petits fuchsias peuvent faire des racines pour qu'elle ait une nouvelle culture pour l'année prochaine.
Olivier, on voit, alors pour nos auditeurs pas, mais nous on voit sur la photo, ce fuchsia est quand même assez imposant.
Oui.
Est-ce qu'il y a une méthode plus particulière? Est-ce qu'on peut le diviser en plusieurs parties pour mieux justement l'hiverner?
Alors après, ça c'est un petit peu, ça dépendra des plantes, parce que vous avez un fuchsia, comme elle le dit, qui est assez âgé, assez vieux. Il peut avoir fait un tronc, des tiges, et ça on peut plus les diviser. C'est une plante, si elle laisse la plante dans le pot est seule, on va le laisser seul. Par contre, si on a dans une barquette ou c'est qu'il y a une caissette à fleurs, ou c'est qu'il y a 3-4 fuchsias, elle pourrait les diviser. Mais ça, elle va plutôt le faire au printemps. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le faire, passer l'hiver. Donc, on va lui faire ralentir sa végétation pour que, pendant cet hiver, il ait le moins de pousses possible. Donc, au printemps, quand on le met dehors et puis qu'on met une plante sur son balcon, on y donne de l'eau, de l'engrais, on va le faire pousser le plus rapidement pour avoir beaucoup de fleurs. Et maintenant, on va essayer de faire l'inverse. On va le mettre dans une période de repos, parce que toutes les plantes, on voit en forêt, si les arbres perdent leurs feuilles, c'est pour passer dans une période d'hivernage. Donc la plante qu'on rentre, on va essayer de lui faire ça, la mettre au froid et puis plus trop l'arroser, la laisser sur une vie calme, et puis qu'après, au mois de mars, on puisse la relancer en végétation.
Les jardinières.
7h46, toujours en compagnie des jardinières. On attend avec impatience vos questions en direct, par exemple.
Ben
et
oui,
ça
c'est
se fait par téléphone.
Exactement, 0 900 1 70 20 20. Faites pas les timides, venez poser votre question à Olivier Rubaud. En plus, il a mangé déjà, donc il va manger personne. Il sera là pour répondre à votre question en direct. Ou autrement, vous pouvez nous envoyer toujours un SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question au 939 ou par le formulaire qui est disponible sur notre site internet.
Et on va enchaîner avec cette question pour vous. vous, Olivier. Une personne nous dit « J'ai des bulbes de tulipes, mais je ne sais pas quelle couleur seront les fleurs. Y a-t-il un moyen de le savoir avant la floraison ?» Merci.
Alors, ça, c'est très, très compliqué à savoir, à part peut-être regarder l'étiquette si on les a achetées dans une jardinerie. Mais sinon, un bulbe, on a un peu tendance, quand on a l'habitude d'avoir des bulbes à planter souvent, les bulbes qui sont clairs, qui sont vraiment très clairs, peuvent donner des fleurs assez claires, blanches ou jaunes, comme ça. Mais si on avait des bulbes avec une coiffe qui est foncée, on va retrouver un bulbe avec une floraison assez vive, assez rouge ou rose foncé. Et puis, ben, pour rebondir sur les bulbes, c'est vrai que maintenant, il faut y penser. C'est maintenant qu'on va planter ces bulbes. C'est la période d'automne qu'on va aller les acheter, qu'on va les mettre en terre, qui vont gentiment passer l'hiver sous terre. Ils vont faire des racines. Et puis, c'est au printemps que ça va sortir. Donc, souvent, on se dit au printemps, ah, j'ai des belles tulipes, le voisin et tout. Alors, c'est vraiment maintenant, tout ce qui est tulipes, narcisses, crocus, qu'il faut penser à mettre, ou les ailes sauvages avec des magnifiques fleurs violettes, qu'il faut mettre ça en terre à cette saison.
Bon, on met en terre, comment ça se passe de mettre en terre un bulbe?
Alors, c'est assez simple pour planter un bulbe. Il faut toujours un petit peu se poser la question, est-ce qu'on va le laisser définitivement, ou il y a certaines personnes qui ressortent les bulbes de tulipes après la floraison? Ça pourrait être un prochain sujet, parce qu'il y a quand même beaucoup à dire sur ça. Mais on va faire un sol assez meuble, on va améliorer un peu de sable, un peu de terreau, un peu de compost s'il faut, et on va faire un bon petit trou, on va le mettre dedans, toujours dans le bon sens, hein, y a toujours un sens de plantation, donc la tige, elle doit pouvoir sortir facilement, et puis après, ben, un peu tassé, un peu arrosé, et puis ça va pousser.
Nous avons des patates douces, on enchaîne avec une nouvelle question, ces patates douces sont encore dans la terre, comment savoir quand c'est le moment de les sortir?
Ah, vous êtes parti, on va mettre des bulbes en terre et maintenant on va ressortir des tubercules ou des bulbes de tomates, de pommes de terre, pardon. Pommes de terre douces, c'est...
Pas la même couleur. Hein.
C'est pas la même couleur, mais puis pour savoir quand elles sont matures, c'est le feuillage qui nous le dira. Une pomme de terre, quand son feuillage a jauni, a séché, eh bien, on sait que le tubercule est bon à être sorti de terre. Si on arrive tard à l'automne et que le feuillage n'a pas eu le temps de sécher, eh bien, on peut les sortir, mais seulement la période de garde du tubercule, de la pomme de terre, douce ou normale, sera moins long, parce que ce feuillage n'aura pas pu remplir correctement la réserve qui se trouve sous terre, qui est cette pomme de terre, pour la garder le plus longtemps possible. Donc si on les sort du sol, qu'elles ne sont pas assez mûres, assez remplies, ces bulbes, ce tubercule, eh bien, il ne se gardera pas pour l'hiver.
Il faudra donc les manger tout de suite.
Exactement.
Merci beaucoup Olivier. On va se retrouver dans un instant pour la suite des jardinières et la fin.
7h, 8h, les jardinières.
7h53 chez les jardinières. Raphaël, est-ce qu'on donne vite fait une dernière fois le numéro de téléphone au cas où quelqu'un a une petite question?
Mais alors, ce serait vraiment pour le maintenant ou jamais.
Ouais,
vraiment, 0 901 70 20 20. Vous avez une question pour Olivier Ribaud, qui est pépiniériste à Port-en-Truy. Vous voulez lui poser une question, vous avez une plante, hop, vous arrivez dans l'émission, vous dites c'est ma chance, et bien c'est maintenant qu'il faut nous appeler. 0 901 70 20 20.
Et puis sinon, en première partie d'émission, Olivier nous a expliqué comment fonctionne la multiplication végétative. Quelque chose à vraiment essayer et à tester chez vous. Vous retrouverez en podcast toute l'émission en cours de matinée. On va déjà la terminer, hein, avant de la réécouter.
Oui, ça peut être une idée.
Elle sera sur notre site. Et Olivier, avant de vous laisser filer, dites-nous, qu'est-ce que vous allez faire, vous, ce week-end, en tant que pépiniériste? Oui, je veux savoir.
Je vais aller faire une petite visite et puis des petits contrôles dans mes cultures de sapin de Noël, déjà, pour commencer ce matin. Parce qu'il y a toujours des travaux. Je pense que ceux qui jardinent savent que même si on prend une plante, on a toujours du travail à faire dessus. Donc, ça sera aussi un petit peu quelque chose à faire pour moi. Mais j'incite vraiment les gens qui ont envie de faire des plantes nouvelles, de multiplier, parce que c'est un peu une passion d'arriver à créer des nouveaux végétaux. C'est ce qui est le plus important, parce qu'une fois qu'ils sont plantés, il y a l'entretien, ça c'est une chose, mais à la base, quand vous allez dans un garden center, dans une jardinerie, dans un pépiniériste, vous allez acheter une plante qui a dû avoir un travail de multiplication. On a dû créer cette plante, que ce soit par semis, on l'a vu, par greffe, et maintenant on peut voir qu'on peut faire des plantes par bouture. Donc essayez, il faut couper des plantes, il faut les repiquer, et puis à force, on verra que c'est possible de le faire. Et surtout, c'est la bonne période à l'automne. Maintenant, ces plantes, elles sont encore un petit peu en végétation, elles vont se durcir pour l'hiver, donc maintenant on les coupe, on les met en terre, et elles vont faire de la racine. Donc c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas hésiter de faire.
Olivier, on est le 9 octobre, vous avez évoqué les sapins de Noël, et Mylène n'ose pas vous poser la question parce que c'est une grande fan de Noël. Ils en sont où ces sapins? Ils font genre quelle taille?
Il y a toutes les tailles, hein. Il y a ceux qu'on a plantés ce printemps, et puis il y a ceux qui font 8 ou 10 mètres, hein. Il y a un peu de tout, il n'y a pas de souci.
8-10 mètres, c'est pratique, hein,
dans
le plafond.
Ça ira bien dans mon salon.
Merci en tout cas beaucoup Olivier, on rappelle que vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Porrentruy. On vous remercie d'avoir été dans les jardinières ce matin, on vous souhaite un tout bon week-end et on vous dit à très bientôt.
Ben, merci à vous, à bientôt.
Merci beaucoup Olivier. La semaine prochaine, c'est Tom le jardinier qui sera là pour répondre à vos questions jardinage. Des questions que vous pouvez poser en tout temps, soit par SMS, vous tapez jardin, espace, votre question et vous nous l'envoyez au 939 ou bien sûr via le formulaire disponible sur notre site. À samedi prochain, Raphaël.
Oui, à samedi prochain, Mylène. Bon week-end.
Bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.